Alors, vous évoquiez un peu la violence du monde extérieur, on parle de rapports de domination aussi. Est-ce que le polyamour peut reproduire des dynamiques de pouvoir, des comportements toxiques qui vont peser sur les personnes les plus vulnérables, voire de la prédation? Comment on peut s'en protéger?
Alors, oui, on n'est pas exempt, en fait, de violence, parce qu'on est des humains dans une société qui nous formate à la violence systémique, ne serait-ce que le patriarcat et le sexisme. Il n'y a aucune raison pour que, parce qu'on relationne différemment, on en soit complètement vierge, en fait. On grandit dans un monde qui est permissif sur ce genre de discrimination et violence. Et à nous d'y être aussi vigilants, on travaille aussi à communiquer dessus, à faire de la prévention. C'est pas pour rien, parce que si ça peut arriver dans un couple monogame, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas dans des couples pluriels, enfin dans des relations plurielles. Puis plus on est en relation avec des personnes, plus on impacte des personnes. Et donc si on a un fonctionnement qui est violent, discriminant, on peut le reporter sur plusieurs personnes en même temps. Et on peut être aussi violent par moment. Et comme on fonctionne en polycule, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui se passe avec l'un peut cascader sur d'autres, parce que ça impacte l'humeur, la santé mentale les uns des autres. Donc on n'est absolument pas protégé des violences.
Le polyamour en tant que tel, et puis si on se raccroche à la philosophie de vie et aux principes, etc., est censé avoir un œil critique sur ces rapports de domination. Malgré tout, en effet, ça ne protège rien. Et des fois, il y a des personnes qui utilisent la rhétorique du polyamour pour instituer des rapports de pouvoir. Donc là encore, c'est faire de la prévention, c'est rencontrer d'autres personnes pour se rendre compte qu'en fait, les discours ne vont pas. Mais il peut y avoir en effet des asymétries entre les expérimentés et les novices. On est en train de sortir un violentomètre spécifique aux relations polyamoureuses pour justement essayer de casser les discours qui utilisent la rhétorique du polyamour pour faire de la merde, en gros.
Sur le violentomètre, il y a faire de la merde à un moment.
Voilà.
Dans le rouge.
Quand tu arrives dans l'orange, c'est que c'est pas très bon signe.
Les dynamiques de pouvoir sont à questionner, mais en fait, comme dans par exemple, le milieu queer nous apprend énormément là-dessus, sur le fait que des dynamiques de pouvoir existent au sein des milieux queer, des dynamiques de pouvoir existent dans toutes les structures interpersonnelles. Il y a le bouquin Paillettes toxiques et Sérum Phi, je trouve qu'il est hyper bien, justement, sur les rapports de pouvoir dans les relations non cis hétéro.
Pour beaucoup d'entre nous, c'est hyper compliqué, ça peut être encore une fois un terrain d'une grande ambivalence, des fois je m'ennuie, des fois j'ai pas envie, des fois je ressens rien, des fois j'ai mal, des fois ça me rappelle des souvenirs traumatiques, des fois ceci, cela, c'est ça que j'essaie de mettre en avant, quoi. C'est vraiment cette ambivalence-là qui est complètement éludée quand on entend tous les discours autour de la sexualité. Mais quand je parle de sexualité déviante, je parle aussi des sexualités LGBTI, pour lesquelles cet impératif sexuel, cette obsession pour la sexualité se pose pas du tout de la même manière, puisque les sexualités hétéros vont être beaucoup encouragées, comme encore une fois au fondement d'un bon couple, etc. Alors que les sexualités LGBTI, elles vont être découragées parce que considérées comme en dehors de la norme, déviantes. Il y a souvent l'œil du fétichisme, de la moquerie, du dégoût qui vient se poser sur ces intimités.
On en vient à un mot qui, j'espère, ne deviendra pas valise et fourre-tout. C'est le consentement. Il me semble essentiel, évidemment, dans ce contexte polyamoureux, puisque ça traverse non seulement la sexualité, mais aussi les choix relationnels. Comment vous définiriez, si c'est possible, ce qu'est le consentement dans un contexte polyamoureux?
Je pense que la définition du consentement qui vient de rentrer dans la loi est tout à fait appropriée à tout type de relation, à savoir un consentement doit être éclairé et libre, révocable, spécifique, préalable. Et moi, je rajouterais enthousiaste. Pourquoi enthousiaste? Non, ça a son importance, parce qu'en fait, aujourd'hui, alors au niveau global, pas que dans les relations poly, mais il y a encore 57% des femmes qui se forcent à avoir des relations sexuelles. Donc, c'est intéressant de venir questionner pourquoi ça existe. Et donc, je pense qu'il y a vraiment plein d'éducation à faire. Donc il y a de l'éducation à faire sur où est-ce que je me sens à l'aise, mais pour ça il faut venir questionner les biais de perception, les biais de pouvoir, qu'est-ce qu'on dit ou pas. Donc nous on fait de la prévention contre les violences entre partenaires dans le cadre de l'asso. En fait, en polycule, enfin, ou en tout cas en relation plurielle, le consentement, c'est toujours entre deux individus de toute façon. Et puis après, il y a la notion de transparence qui est importante. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'il faut faire gaffe entre la transparence, c'est-à-dire tout dire et tout raconter à tout le monde, ce qui n'est pas la transparence, parce qu'en fait, il y a aussi le droit à la confidentialité. Et donc, je trouve que pour le consentement, de la partie éclairée du consentement, c'est surtout quels sont les contrats de protection contre les IST. Alors là, ça va faire un peu relou, mais le contrat de protection contre les IST qui est mis en place entre chaque duo. Et que ça, il n'y a pas de question de confidentialité là-dessus, c'est on est censé savoir quel risque on prend.
Quand tu parles de contrat, c'est un contrat pas écrit, c'est un truc...
Tu peux l'écrire, tu peux le formaliser à l'écrit si tu veux, mais le tout c'est qu'en fait c'est de poser les choses, de dire qu'est-ce qui est non négociable pour moi, qu'est-ce qui est non négociable pour toi, sur quoi j'accepte de prendre des risques ou non, et en fait on respecte le niveau en fait de prise de risque et celui le plus bas des deux partenaires. Si moi j'ai un niveau de prise de risque qui a un tel niveau, mais que le partenaire ou la partenaire avec laquelle je suis a un niveau de prise de risque qui est plus faible que le mien, je vais m'adapter au sien pour pas qu'elle prenne des risques qu'elle ne veut pas prendre. Si ça ne me convient pas, à moi, soit de m'adapter, soit de ne pas relationner avec cette personne. Là, on parle de consentement, mais c'est un consentement aussi à la protection de notre propre santé. C'est que le consentement, ça part déjà par le consentement envers soi-même. Qu'est-ce que moi, j'accepte d'accepter pour moi ? Parce que si on n'est pas capable de savoir où est notre limite à nous, on ne peut pas l'exprimer à l'autre. Et c'est déjà ça, une grosse question d'identifier et de s'autoriser, en fait, à avoir une limite et à la verbaliser. Et c'est quelque chose qui est indispensable, là, pour les questions de protection des IST, mais aussi de mettre nos limites dans le mode relationnel, dans ce qu'on accepte, la modalité de relation. En fait, si on veut avoir un consentement et des relations saines, il faut savoir dire où sont nos limites, nos besoins. Et pour ça, il faut s'interroger et s'autoriser à les dire.
Et le renouveler, parce que c'est vrai que peut-être que les relations changent, il y a des nouvelles personnes qui peuvent arriver. Donc il faut sans cesse s'interroger en fait sur ce don, tu as dit, ce qu'on accepte d'accepter en fait. J'ai bien aimé l'expression. Mais voilà, continuer en fait, toujours en dialogue, dans la communication. Quoi.
Tout à fait.
Mais la communauté poly est incroyable, moi je trouve pour ça. C'est qu'il y a énormément d'outils communautaires qui ont été pensés pour justement être dans une meilleure communication. Donc il y a le radar, l'utilisation de la communication non violente, le RBDSM, la carte des relations plurielles. Donc ça, c'est que des outils communautaires. La communauté poly quand même se pose énormément de questions sur le consentement. Ça veut pas dire que tout est parfait, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment, j'ai l'impression, une volonté de faire attention à tout ça. Le groupe communautaire, c'est quand même un facteur de prévention des violences, il me semble.
Et je voulais dire, ces outils dont tu viens de parler sont des outils qui sont libres et dont chacun peut se saisir pour l'enrichir et les perfectionner. Ce sont des outils qu'on fait circuler librement et dont tout le monde vraiment peut se saisir et qui ne servent pas qu'aux relations polyamoureuses. Ça peut servir aussi bien pour des amitiés, pour des relations familiales. Moi, je sais que ce sont des outils que j'ai transmis à ma psy, par exemple, et qui a été émerveillée de voir qu'on avait des outils qui avaient été créés communautairement, aussi riches et aussi efficaces et à propos, en fait.
Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, surtout quand les émotions peuvent surgir entre un consentement donné par conviction et un consentement donné peut-être par la peur de perdre quelqu'un.
En dehors du polyamour, on se rend compte que les gens ont un contrat moral dans leur tête qui leur est personnel et qui pense universel.
Implicite.
Et implicite, voilà. Et qui du coup, en fait, ils pensent universel, donc ils ne le questionnent pas, ils ne le verbalisent pas et ils ne le discutent pas entre eux. Là où nous, on est dans des situations où tout est obligatoirement discuté. C'est ce qui permet le consentement. Et ce qui fait aussi qu'on peut créer notre propre modalité, entre binômes, entre polycules aussi, de faire des choses sur mesure. Et c'est hyper puissant.
Ouais. En fait, l'explicite, c'est hyper important. Dans le polyamour, on ne peut pas faire... Il y a le truc de l'escalator relationnel. On commence par se séduire, puis s'embrasser, puis habiter ensemble, et puis se marier, et puis bref. Bon, cette espèce d'escalator relationnel, il ne fonctionne pas dans le polyamour. Et donc, du coup, les gens, globalement, qui le pratiquent depuis un certain temps, ou qui ont de l'expérience, ils sont en mode, en fait, qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Et donc, tout est C'est, mais ça va de est-ce que envoyer des textos à une autre personne, est-ce que... En fait, tout ça, c'est discuter. Et donc, il n'y a plus cette espèce d'implicite à quel moment ça, c'est de la tromperie, à quel moment c'est pas de la tromperie. Enfin, tout ça, ça n'existe plus. Et moi, je comprends plus trop comment fonctionnent les gens avec des contrats implicites, quoi. Parce que ça n'a... Vraiment, c'est tellement un lieu de... justement, d'inégalité et de prise de pouvoir qu'il vaut mieux en avoir parlé. On sait exactement ce qu'on se permet, ce qu'on se permet pas. Tout ça, ça, ça.
Le flou, c'est un libre cours aux abus, en fait.
Dans le polyamour, on est dans le consentement et la transparence. Hein. Donc, on n'est pas dans le sous-marin. Il n'y a pas de mensonge ici. On est au courant que l'autre a d'autres histoires. Alors, on n'est pas obligé d'avoir non plus tous les détails, heure par heure. C'est pas très intéressant d'avoir tous les détails. Faire que de fliquer, de contrôler l'autre, qu'est-ce qu'il fait heure par heure. Et donc, justement, le respect, il est dans le non-mensonge. Il n'y a pas de mensonge. On vit en vérité. Donc, on se respecte dans le sens où on est consentant et il n'y a pas d'histoire de sous-marin.
C'est sûr, c'est jamais marrant les ruptures. Mais plus je creuse et plus j'ai la nette impression que c'est la bonne décision. Alors ne prends pas mal, toi je t'aime. Et c'est pas me barrer qui va changer ça. Mais j'en ai marre que tu me vois comme une anomalie quand j'aime plein de gens à la fois. Des années à manger dans la gueule, des phrases du genre t'en as juste rien à carrer. Des années à m'en vouloir de quitter ce que j'aime, ça m'a blindé, fatigué. Alors prends ça comme un coming out polyamour, comme du foutage de gueule à toi de voir. Mais j'ai trop fait semblant de croire au Disney, et là j'en ai marre. Et j'aimerais te dire bébé j'ai laissé mon âme dans cette chambre qui sentait la pluie, la nuit d'orage où on s'est dit au revoir dans cet hôtel à Düsseldorf. Mais j'aime pas t'appeler bébé et je crois pas en l'âme. Mais y'avait ni chambre d'hôtel ni pluie. Le beau jour de soleil où on s'est dit au revoir. Très très loin de Düsseldorf. Je te parle de poly machin mais en vrai j'y connais rien. Et je galère encore à poser les mots. Je suis comme tout le monde, on m'a dit y'a qu'une façon de faire. Et ça m'a bien cramé le ciboulot. Si on est 7 milliards, bah y'a 7 milliards d'amour. Je te parle de moi, pas des autres, pour ça j'ai pas les clés. Mon cerveau hiérarchise pas les gens. Et je veux plus avoir peur d'en parler. Parce que c'est la merde sur terre. Et je crois bien qu'on va tous mourir. Et quand je rencontre quelqu'un et qu'on se fait du bien, faudrait qu'on se retienne de se faire plaisir. Et si l'amour et l'amitié pour moi c'est pareil, plutôt crever que te forcer. Je vois bien que ça te fait mal quand tu me dis je veux bien essayer. Et j'aimerais te dire bébé j'ai laissé mon âme dans cette chambre qui sentait la pluie, la nuit d'orage où on s'est dit au revoir dans cet hôtel à Düsseldorf. Mais j'aime pas t'appeler bébé et je crois pas en l'âme. Et y'avait ni chambre d'hôtel ni pluie. Le beau jour de soleil où on s'est dit au revoir. Très très loin de Düsseldorf. Et je mentirais si je disais que le cul a rien à voir là-dedans. On n'a qu'un seul ticket pour cette fête, après c'est le néant. J'ai pas l'impression d'être le plus gros des tarés en disant qu'on peut aimer quelqu'un et vouloir baiser d'autres gens. Et j'aimerais te dire bébé j'ai laissé mon âme dans cette chambre qui sentait la pluie, la nuit d'orage où on s'est dit au revoir dans cet hôtel à Düsseldorf. Mais j'aime pas t'appeler bébé, je crois pas en l'âme. Et y'avait ni chambre d'hôtel ni pluie. Le beau jour du soleil où on s'est dit au revoir. Très très loin de Düsseldorf.